La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagé.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le 3 mars 2026, J2 de la semaine des droits des femmes. Hier, nous évoquions la place des femmes dans l'agriculture. Des mesures sont prises, des dispositifs se structurent, des exploitantes prennent davantage leur place, les lignes bougent progressivement. Aujourd'hui, autre focale, les associations et la sécurité des femmes, notamment la nuit. Lorsque l'on parle des droits des femmes, le débat se concentre souvent sur l'égalité salariale, la parité dans les instances de décision, la représentation. Ces enjeux restent centraux, ils structurent l'accès aux responsabilités ou aux ressources. Les droits des femmes concernent aussi la dignité dans des circonstances très concrètes. Pouvoir rentrer chez soi sans adapter son trajet, pouvoir sortir, pouvoir travailler tard, pouvoir faire la fête sans anticiper le risque, pouvoir occuper l'espace public sans justification. La vie nocturne attire, dynamise, crée du lien. Bars, concerts, clubs, événements culturels rythment les soirées. Cette vitalité s'accompagne d'une réalité plus sombre. Harcèlement de rue, agression, comportement intrusif et aussi abusif. Face à cela, des associations se mobilisent. Leur travail repose sur des bénévoles, des subventions qu'elles peinent à obtenir malgré l'utilité des actions, des partenariats avec les collectivités qui semblent frôler l'amnésie lorsqu'il faut des moyens. Leur travail transforme pourtant des expériences individuelles. La question dépasse la seule sécurité, elle touche à la liberté. Sortir le soir sans peur relève d'un droit fondamental. La liberté ne se négocie pas selon l'heure ou l'endroit. Et cette deuxième journée dédiée aux droits des femmes, la réflexion est bien sûr collective. Comment garantir à l'espace public que l'espace public appartienne réellement à toutes et à tous? Comment soutenir les associations qui agissent pour nos droits? Et comment faire évoluer les comportements dès le plus jeune âge? Les droits des femmes parlent d'égalité, ils parlent aussi de respect et de dignité dans le quotidien le plus ordinaire. Je nous souhaite de faire respecter le droit à la sécurité comme une condition évidente à la liberté. Au sommaire de cette matinale de 19h, Tiana à l'interview, notre invitée Cécile Afanian-Pouladzan, coordinatrice du mouvement associatif Île-de-France. Cécile nous fera l'état des lieux de la vie associative. Le tour de l'actualité en Flash Info, on retrouvera Léo. En Chronique Actu, ce sera Grégory et en sujet, l'éclairage public. En Zoom, ce sera Vladimir, focus sur la vie nocturne en Île-de-France avec l'association Consentis qui lutte depuis 2018 contre les violences sexuelles et les discriminations en milieu festif. Notre invitée Clémentine Roux, juriste et chargée de prévention au sein de l'association. En chronique libre, Noémie. Et enfin, en réal, pour m'accompagner, c'est Julie.
Les Mardicipales. À l'approche des élections municipales 2026, la matinale de 19h vous propose sa série spéciale. Tous les mardis jusqu'au 10 mars sur Radio Campus Paris.
Tout de suite, notre interview, on est avec notre invitée Cécile Afanian-Pouladzan, je m'excuse absolument, coordinatrice du mouvement associatif et c'est avec Tiana. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir et merci Francesca. Aujourd'hui, nous accueillons donc Cécile Afanian-Pouladzan. Bonjour.
Bonjour.
Tu représentes le mouvement associatif de la région Île-de-France et tu participes au CESER, qui est le Conseil économique, social, environnemental régional. Le mouvement associatif où tu travailles donc regroupe plus de la moitié des associations de France, soit plus de 7000 assos. Il est présent dans 13 régions françaises et il couvre plusieurs champs d'activité comme la culture, la jeunesse ou encore l'éducation populaire. Ce que tu vises à faire au mouvement associatif, c'est favoriser le développement des associations pour tendre vers une société plus juste, plus durable et plus humaine. Et donc pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais présenter le rôle du mouvement associatif en Île-de-France ?
Oui, bien sûr. Alors le mouvement associatif, c'est une tête de réseau, c'est-à-dire qu'on réunit plusieurs réseaux, plusieurs coordinations, plusieurs fédérations associatives qui, elles, représentent un champ d'activité en particulier, comme tu l'as dit, la culture, l'éducation populaire, le sanitaire et social, le sport. Il y a une quarantaine d'adhérents au mouvement associatif au niveau national, donc c'est-à-dire qu'on a une représentation assez large et assez représentative en fait, de la diversité du monde associatif qui intervient dans à peu près tous les champs de la vie. Et du coup, notre rôle, c'est de représenter, défendre, porter la voix des associations et faire reconnaître leur place et leur rôle dans la société, leur importance dans la société, auprès des pouvoirs publics, mais aussi en fait, auprès du grand public, enfin de tout le monde.
Et comment tu décrirais le rôle de ces associations dans notre société aujourd'hui, et particulièrement donc, dans cette région qui est l'Île-de-France, qui est la région, une des régions les plus importantes dans notre pays?
Alors, les associations, déjà, à la base, c'est des citoyens, des citoyennes qui se réunissent pour porter des projets ensemble. Donc, en fait, les associations, elles ont déjà un rôle assez important dans la vie démocratique du pays, puisque c'est des initiatives citoyennes, des personnes qui se réunissent pour porter des projets, généralement avec en visée l'intérêt général, et donc contribuer à faire évoluer la société. C'est des lieux d'expression citoyenne, un peu comme vous l'êtes là, Radio Campus, qui est une association. Voilà, c'est aussi des espaces d'expérimentation un peu en dehors du cadre institutionnel, même si parfois après il y a des choses des choses qui naissent dans les associations qui peuvent devenir des politiques publiques. Les associations, c'est aussi des espaces de rencontre des gens en fait. C'est aussi c'est des structures qui sont très importantes pour la création de liens sociaux et pour le lien social. Donc c'est un rôle assez important dans la société. On a un peu tendance à dire que c'est aussi les associations qui font tenir la société.
La société. Et on parlera un peu plus tard de comment elles peuvent participer à l'élaboration des politiques publiques, mais je voulais d'abord me concentrer plutôt sur toi, ton rôle au sein du mouvement associatif, et je voulais te demander en quoi pouvait consister en fait ton quotidien en tant que coordinatrice pour cette région-là.
Ouais. Alors moi je travaille pour le mouvement associatif Île-de-France, c'est-à-dire qu'on est la représentation, il y a un mouvement associatif national et puis comme tu l'as dit une représentation dans plusieurs régions, donc moi j'interviens à l'échelle de l'Île-de-France. Je suis coordinatrice de ce réseau, donc c'est-à-dire que j'ai un rôle de coordonner l'ensemble des actions qu'on porte, donc c'est-à-dire à la fois, je le disais tout à l'heure, représenter les associations, donc ça peut être intervenir dans différents types d'espaces, le Césaire répondre à d'autres sollicitations. On porte un plaidoyer pour défendre la vie associative, donc des mesures qu'on va porter pour améliorer aussi la représentation et la défense des associations. Et puis on a plusieurs actions pour accompagner ou structurer l'accompagnement de la vie associative, travailler à renforcer ou favoriser l'engagement des bénévoles, améliorer l'accompagnement des associations. Du coup mon rôle c'est de coordonner l'ensemble de ces actions.
Et est-ce que au quotidien tu dirais que tu es plus en contact avec les associations, les représentants de ces associations, ou plutôt tout ce qui est administration publique et peut-être les mairies, vu que justement on est dans ce contexte d'élection des mairies?
Un petit peu des deux. Je suis en lien avec des associations sur certaines actions, tout ce qui est différents dispositifs d'accompagnement, et puis avec des institutions aussi sur d'autres projets, puisque notre rôle c'est aussi de travailler auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer les actions que eux-mêmes portent en direction des associations. Donc on est aussi dans comment est-ce qu'on travaille les politiques qui sont menées pour accompagner ou soutenir les associations.
Et justement, quand on parle de ce dialogue que tu établis en tant que coordinatrice, un des engagements premiers en fait, du mouvement associatif, c'est de renforcer cette coopération, surtout entre collectivités et associations. Et est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un projet qui a été concrètement mis en place pour répondre en fait, à cet engagement?
À l'engagement de
de renforcer, voilà, de renforcer les relations entre les collectivités, un aboutissement.
Ouais. Là, depuis quelques années, on porte un projet qui s'appelle Guide Asso, donc qui existe en Île-de-France, mais aussi dans toutes les régions de France, qui vise à améliorer la visibilité des acteurs qui accompagnent la vie associative. Et c'est un projet qui a été construit depuis le début, en partenariat avec le mouvement associatif et l'État, en l'occurrence, auxquels sont ensuite associés des collectivités. Mais c'est vraiment un projet qui est né du mouvement associatif, qui est devenu une politique publique maintenant et qui s'est construit depuis le début dans un partenariat assez étroit.
Ok. Et vu que tu t'occupes aussi du budget, des finances qui touchent justement à cette vie associative, est-ce que vous avez, enfin, comment se détermine le financement des associations? Est-ce que vous avez peut-être des catégories? Est-ce que vous privilégiez certaines associations peut-être qui auraient une plus grande taille ou peut-être une plus grande importance selon vous pour la société?
Ouais. Alors nous, on finance pas d'associations. D'accord. Nous, on est un réseau associatif, donc on a un statut loi 1901 comme toutes les associations. En revanche, le financement des associations, qui est effectivement une part de financement public qui a tendance à baisser, mais qui existe encore et heureusement, En fait, une subvention, ça vient plutôt en lien avec une politique publique. Alors, il peut y avoir un soutien dit au fonctionnement, donc c'est-à-dire pour soutenir le projet associatif et l'association en tant que telle, mais c'est aussi souvent en lien avec des politiques publiques. Donc peut-être que ce sera lié aussi avec des politiques qu'on a envie de soutenir, mais toutes les associations dans l'absolu peuvent mobiliser et en tout cas pas forcément l'obtenir, mais au moins demander des subventions.
Et est-ce que un de vos projets principaux ce serait pas peut-être de soutenir le financement de ces associations, de demander peut-être plus d'aide à l'État?
Ouais. Effectivement, c'est une demande qu'on fait tous les ans, qu'on fait régulièrement. Oui, alors forcément, il y a un besoin de soutenir les associations qui connaissent aujourd'hui énormément de difficultés financières.
Est-ce qu'il y a un secteur en particulier?
Non, en fait, c'est assez. Pour le coup, ça touche à peu près tout le monde. Les budgets, en tout cas sur les budgets de l'État et par ricochet les budgets des collectivités baissent sur à peu près toutes les lignes. Du coup, effectivement, dans le plaidoyer qu'on porte auprès du gouvernement, auprès des parlementaires ou auprès des collectivités, c'est effectivement à minimum à maintenir, mais en fait, idéalement même en renforcer le soutien financier.
Et quels sont vos arguments premiers, en fait, pour demander, justement, pour justifier cette augmentation du financement?
Alors, les arguments, c'est que les associations sont dans des grandes difficultés et presque... on ne va pas dire que le monde associatif entier se meurt, mais il y a quand même beaucoup de d'associations qui sont contraintes de réduire leur activité, voire de supprimer leur activité. Il y a aussi beaucoup d'emplois qui sont supprimés dans le monde associatif aujourd'hui. Et effectivement, je n'ai pas encore forcément beaucoup de chiffres, mais il y a de plus en plus d'associations qui sont contraintes de fermer leurs portes. Et si on fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur leur rôle, déjà en termes de vitalité démocratique et le rôle en termes de création de liens sociaux et de cohésion sociale, dramatique.
Ouais. Est-ce que vous auriez est-ce que tu aurais un exemple peut-être d'une association qui a fermé, qui aurait pu avoir un soutien plus conséquent et qui n'a pas été fait en fait?
Non, j'aurais pas d'exemple. Après, c'est un petit peu dur à dire parce que parfois c'est aussi des lignes, des secteurs ou des lignes budgétaires qui sautent et du coup, ça a forcément des impacts sur les associations puisque c'est une transformation aussi de tout leur modèle économique. Donc c'est une adaptation qui est pas facile à trouver. Il y a aussi parfois une injonction qui est faite aux associations d'aller chercher d'autres sources de financement, mais déjà ça se fait pas en un claquement de doigts. Et puis parfois, suivant les projets, il n'y a pas forcément énormément de pistes. On ne peut pas les mobiliser, faire payer plus des prestations ou en tout cas les activités qu'on propose sur, par exemple, un club de sport ou un club qui fait des activités artistiques ou culturelles. On ne peut pas demander aux personnes de payer plus cher.
Oui, évidemment. Et pour parler maintenant du contexte actuel, des élections municipales qui approchent, je voulais parler de certains candidats. Là, je vais notamment me baser sur les déclarations d'Emmanuel Grégoire, qui se présente pour le Parti Socialiste à la mairie de Paris, et qui a comme projet, un projet parmi d'autres principaux, c'est de végétaliser la capitale. Et est-ce que dans ce projet, les associations, elles sont prises en compte, ou est-ce qu'elles devraient être plus intégrées, peut-être, selon toi?
Alors, si vous permettez, je propose qu'on réponde à cette question juste après la pause musicale.
Ben, parfait, ça me va.
Tout de suite, on écoute l'artiste Vegin avec le titre « Last night I dreamed I was alone ». Last night I dreamed I was alone de Vegin. Il est 19h19 et vous êtes sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
On retrouve la suite de notre interview. Donc, Tiana, si tu peux redire
oui,
la question pour Cécile.
Bien sûr. Alors, on parlait des élections municipales qui vont avoir lieu prochainement, ce mois-ci. Et je parlais notamment d'Emmanuel Grégoire, qui se présente pour le Parti Socialiste, et qui voulait donc végétaliser la capitale. Est-ce que les associations étaient prises en compte dans ce projet? Ou alors, est-ce que selon toi, elles devraient être plus intégrées dans ces projets politiques et urbains pour Paris, mais peut-être aussi que tu as des exemples pour d'autres villes en Île-de-France.
Alors, je ne sais pas si les associations sont bien... je ne connais pas bien le projet, donc je ne sais pas si elles sont suffisamment prises en compte, mais j'espère que
qu'elles le sont.
Que ce sera le cas. Non, mais en tout cas, les associations, elles ont... ce que je disais au début, c'est que c'est aussi des gens, des citoyens, des citoyennes qui se réunissent. Donc, il y en a forcément au niveau local qui peuvent intervenir dans l'élaboration et dans la construction des politiques publiques, mais aussi dans on a des projets de la ville a des projets de végétalisation. Comment est-ce qu'on peut associer les habitants et les habitantes par différents biais et notamment par les associations éventuellement locales, des associations de quartier, pour réfléchir à où est-ce qu'on a besoin de végétaliser, de quelle façon, et du coup inclure
par quelle méthode
la participation citoyenne et pas avoir aussi une logique descendante où il y a des gens qui sont élus et qui décident on a décidé de faire ça, on va faire ça. Voir aussi comment est-ce que on parlait tout à l'heure de coopération, association, collectivité, c'est un bon exemple de on va faire ensemble.
Et par quelle méthode peut-être elle pourrait essayer de se manifester? Moi, je pensais peut-être à la pétition. Est-ce que ça a vraiment un impact au niveau des municipalités? Par exemple, une association lancerait une pétition, elle obtiendrait un tel nombre de voix. Est-ce que ça aurait vraiment un impact sur une...
Ça peut. Après, je ne sais pas si c'est...
On n'a pas eu d'exemple...
Si, il doit y en avoir, j'avoue que j'en ai pas qui me viennent. Après, la pétition, c'est aussi effectivement un moyen de revendiquer quelque chose. Mais je pense qu'il y a des choses qui viennent avant, dans des... comment est-ce qu'une ville... déjà dans la façon de gouverner, comment est-ce qu'on se préoccupe de intégrer la participation citoyenne, notamment les associations? On peut réfléchir à des espaces de concertation. Je sais que par exemple à Paris, il y a le Conseil parisien des associations, qui est une instance qui réunit diverses associations de la ville où on traite, alors pas forcément sur des projets très spécifiques de végétalisation, mais plus globalement de la place des associations dans la façon de gérer la ville, comment est-ce qu'on soutient la vie associative. Et du coup, c'est aussi un bon exemple effectivement de comment est-ce qu'une ville pense à intégrer la voix des associations et à intégrer les associations en tant que représentantes aussi des habitants de la ville dans les politiques qu'elle veut mener.
Et pour parler donc encore de la région et des maires qui vont être prochainement élus, hein, parce qu'on a plusieurs départements et plusieurs circonscriptions, est-ce que le statut de ces associations risquerait de changer globalement si l'on considère en fait le bord de l'élu?
Alors ça peut effectivement avoir des impacts parfois. En fait, ce qui peut changer, c'est... Alors, un changement de majorité, c'est aussi des changements dans les politiques qui sont menées, donc des orientations différentes. Donc, peut-être que des sujets qui étaient très importants pour une équipe en place va l'être moins pour une nouvelle majorité. Et du coup, peut-être que les lignes de financement peuvent être amenées à évoluer. Il y a des projets qui étaient importants précédemment qui peuvent ne plus l'être. Et c'est aussi pour ça que nous, on défend un mode de fonctionnement... Déjà, avoir la capacité de se projeter sur la durée, donc d'avoir des engagements pluriannuels pour être peut-être moins soumis aussi à ces changements de majorité. Et puis, avoir une politique de soutien à la vie associative qui ne soit pas forcément liée à des projets, mais que ce soit plus une politique de soutien global à l'action associative pour pouvoir soutenir les associations dans ce qu'elles portent dans le fondement de leur projet, et que ce soit aussi moins lié à, je sais pas, des accointances entre une majorité et des associations, ou en tout cas que les associations elles sont aussi moins en risque face à ces évolutions, à ces changements de majorité qu'il peut y avoir
très prochainement. Et pour reparler en fait d'Emmanuel Grégoire, il a également promis de doubler les subventions pour les associations LGBT. Et est-ce que tu penses peut-être que c'est une déclaration honnête ou que ça peut être plutôt aussi un outil politique pour s'attirer des voix, une communauté? Qu'est-ce que t'en penses ?
Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que ça peut être effectivement à la fois un argument. Après, j'espère que c'est déjà honnête. Une promesse sincère.
Oui.
Parce que je pense que c'est important de soutenir les associations qui défendent les droits des personnes LGBT. Voilà, et après, c'est toujours la même chose d'une question d'orientation politique. S'il y a une vraie volonté de soutenir et de défendre les droits des personnes LGBT, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. En tout cas, c'est bien que ça passe par le soutien aux associations aussi qui accompagnent les personnes.
C'est vrai qu'ils considèrent doubler quand même le budget. Est-ce que tu sais où ils pourraient trouver justement ce financement ? Peut-être en défavorisant un autre secteur plutôt qu'un autre ?
J'espère pas. Non, je ne sais pas. Il faudrait lui poser la question de comment est-ce qu'ils pensent augmenter... Je ne sais pas si augmenter le budget de la ville, mais... Ouais.
Et selon toi, est-ce qu'il y aurait peut-être un...
Par les impôts.
Et peut-être que... Est-ce qu'il y aurait certains secteurs où les associations sont engagées qu'il faudrait plus pousser à financer suite à ces élections ?
Non, tous les secteurs
sont importants.
Ouais, tous les secteurs sont importants. Et puis c'est vrai que je le disais, les associations, elles interviennent vraiment dans tous les champs de la vie. Mm-hmm. On s'en rend pas forcément compte, mais depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé, et puis en fait vraiment dans notre vie quotidienne, on est en contact avec des associations sans forcément qu'on s'en rende compte.
Donc par exemple la culture n'aurait pas autant besoin de financement que un autre, je sais pas moi, les associations LGBT ou bien financement de l'éducation populaire,
entre les secteurs et dire il y a un secteur qui est forcément plus important
que d'autres,
plus important qu'un autre. Après c'est en fonction des, je sais pas, ou des projets portés ou des besoins aussi qu'il peut y avoir dans les quartiers, dans les villes, auprès des personnes qui les habitent.
Donc, en ce qui concerne les associations qui touchent à la culture, etc., est-ce que il y a certaines villes peut-être qui la soutiennent plus ? Parce qu'on sait très bien qu'en ce moment, il y a quand même une crise au niveau du ministère de la Culture, etc. Est-ce que peut-être il y a certaines villes qui cherchent à mettre en avant ce secteur-là plutôt que d'autres ?
Ouais, j'ai pas d'exemple, je sais pas si tu vois des exemples de villes. C'est vrai que la culture c'est un peu difficile parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les compétences facultatives des villes et de toutes les collectivités. Donc c'est-à-dire qu'on peut
c'est pas une priorité.
Se préoccuper de culture, mais on peut aussi ne pas s'en
D'accord.
préoccuper.
Et quelles seraient
ces volontés aussi des villes.
Des villes, d'accord.
Ou des régions de. Soutenir le monde culturel ou pas. Okay. Puis après, ça peut se faire aussi de différentes façons, soit en soutien fort au monde associatif, mais aussi ça peut être financé via des institutions ou des établissements plus publics.
Et donc, il n'y a pas de secteur que tu considères qui est plus soutenu par les élus de Paris, notamment, parce que je parlais surtout d'Emmanuel Grégoire, mais peut-être que... Est-ce qu'il s'est adressé aux associations ? Est-ce qu'il s'est adressé aux associations particulièrement dans ses projets ou est-ce que justement il les met un peu de côté ?
Les associations ?
Oui.
Non, je crois pas.
Parler d'autres élus également.
Non, puisqu'on est sur lui, on a participé à un événement de campagne qui était spécialement dédié aux acteurs associatifs
D'accord.
et aux acteurs de l'ESS, où on a parlé notamment de financement. Alors, pas forcément en augmentation du financement des associations, mais ce qui est important, c'est aussi de penser la façon dont on finance, au-delà des montants, la façon dont on finance les associations et dont on travaille avec elles. En envisageant déjà nous on défend la subvention de fonctionnement, donc c'est-à-dire financer le fonctionnement, donc c'est-à-dire le projet dans sa globalité, puisqu'on a plutôt tendance à être sur des projets et qui n'est pas forcément logique dans dans la façon dont les associations portent leurs activités, et puis aussi avoir la capacité à se projeter sur, plusieurs années, puisque une année ça passe vite, et en fait on est tout le temps obligé de renouveler.
Oui, donc c'est des projets qui doivent être beaucoup plus longs que
c'est ça.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup Cécile d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, c'est le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
C'est avec le tour de l'actualité, c'est avec Léo. Bonsoir Léo.
Oui, bonsoir tout le monde. L'information principale de ce soir, c'est toujours la guerre au Moyen-Orient qui est entrée aujourd'hui dans sa quatrième journée. Les bombardements s'intensifient dans cette région. L'armée israélienne annonce avoir frappé le site de la présidence iranienne et du Conseil national de la sécurité à Téhéran. Tzahal qui affirme aussi avoir déployé des soldats dans le sud du Liban pendant la nuit. De son côté, le régime iranien continue de riposter. Il bombarde Israël, mais aussi les représentations américaines dans les pays voisins. L'ambassade américaine à Riyad, en Arabie Saoudite, a été attaquée aujourd'hui par deux drones iraniens, causant un incendie limité. Dans ce contexte, le trafic aérien est quasiment bloqué dans cette région et extrêmement perturbé à l'échelle mondiale. 19 000 liaisons aériennes commerciales ont en effet été annulées dans le monde en raison de ce conflit. Les 400 000 ressortissants français qui sont actuellement dans les pays du Moyen-Orient sont donc coincés. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, annonce que la France se prépare à affréter des vols pour rapatrier les ressortissants français qu'il juge les plus vulnérables. Le président français Emmanuel Macron abordera très certainement ce sujet dans son allocution télévisée tout à l'heure à 20h, consacrée à ce conflit. À Paris, maintenant, 50% des collégiens pourraient être scolarisés dans le privé en 2035. C'est ce qu'affirme une projection publiée ce mardi par l'Institut des politiques publiques, IPP. Basée sur des données de l'INSEE et de l'Éducation nationale, cette étude note que le recul de la natalité depuis 2010 engendre un déséquilibre entre public et privé. Le privé fait plus facilement face à la baisse des effectifs des classes. Le public, lui, absorbe toute la diminution et se voit donc obligé de fermer des classes. Les auteurs de ce rapport appellent à prendre des mesures pour éviter que la ségrégation scolaire ne devienne trop importante dans les années à venir. Amazon n'est pas un ami du livre, c'est ce qu'a écrit dans un communiqué le syndicat de la librairie française SLF. Il retire sa participation au Salon du Livre à Paris, l'une des plus grandes manifestations littéraires en France. Le syndicat veut dénoncer le partenariat économique entre le festival et le géant du e-commerce Amazon. SLF dénonce la stratégie de cette entreprise qui conduit à déstabiliser l'écosystème du livre. Fin de citation. Le syndicat appelle à boycotter l'événement qui se déroulera à la mi-avril. Pour l'instant, 1200 auteurs et 450 maisons d'édition sont attendues.
Merci beaucoup Léo. On revient tout de suite après une petite pause musicale. On écoute Ricky Nelson avec le titre Lonesome Town. Restez avec nous.
There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town, can learn to forgive. Maybe down in lonesome town I can learn to forget.
C'était Ricky Nelson avec le titre Lonesome Town. Et tout de suite, c'est la chronique.
Les Mardicipales. À l'approche des élections municipales 2026, la matinale de 19h vous propose sa série spéciale. Tous les mardis jusqu'au 10 mars sur Radio Campus Paris.
La chronique, c'est avec Grégory. Bonsoir Grégory.
Bonsoir.
Il me semble qu'on allait parler de l'éclairage public.
C'est ça, exactement ça.
Dis-nous tout.
Donc dans les années 90, Axel Bauer chantait « Éteins la lumière » pendant que Patricia Cass proposait, elle, d'entrer dans la lumière. Au-delà du fait que j'aime bien ces chansons, leurs paroles n'ont jamais été autant d'actualité. En effet, l'éclairage public est devenu un véritable enjeu politique. Il n'y a qu'à voir en cette période électorale, les mairies s'affrontaient à coups de « moi j'ai tout éteint à partir de 23h, ah ben moi dans ma commune c'est 22h, si on les laisse dans peu de temps on va avoir droit et moi je vous bats car j'ai viré tous les lampadaires ». J'ai l'impression qu'ils savent même plus pourquoi ils font ça. À la base, me semble-t-il, c'était pour répondre à la flambée des coûts de l'électricité et tenter de limiter les dépenses. Mais alors depuis, tout le monde a lâché la rampe. Vol de câbles de réverbères près de Niort, dégradation des éclairages dans les Côtes d'Armor obligeant les gens à se balader avec une lampe torche. Les incivilités pleuvent et pas certain que ça serve la cause. Alors que oui, c'est une vraie question. On ne peut pas ignorer en 2026 les conséquences économiques, sociétales et écologiques d'un tel éclairage de nuit. D'ailleurs, des mesures avaient déjà été prises il y a des années à la suite du Grenelle de l'environnement pour obliger les bureaux et les commerces à tout éteindre au plus tard après 1h du matin. Ça me paraît si fou qu'il faille rédiger des lois et menacer les gens pour qu'ils agissent, alors que je vous assure qu'après 8 pintes, la nuit, les vitrines, elles ont plus de chances d'être constellées de pisse et de vomi que d'être léchées. Donc, peu d'intérêt de les éclairer. L'argument qui revient beaucoup en ce moment pour justifier d'éclairer ou non, c'est l'insécurité. Vraiment surprenant. On serait peut-être pas étonné d'ici quelques jours d'apprendre que les réverbères ne sont en fait que des méchants migrants déguisés, prêts à attaquer le moindre passant. Non mais plus sérieusement, il n'existe pas d'études suffisamment probantes pour affirmer que les agressions ou les vols augmentent lorsque les lumières sont éteintes. Donc, difficile de s'appuyer là-dessus pour mettre en place des politiques publiques. Par contre, ce qui est réel, c'est le sentiment d'insécurité qu'a la population, et en particulier les femmes, lorsqu'elles doivent se déplacer dans une ville fantôme. Du coup, on fait quoi? On laisse allumer, on éteint, jour, nuit, jour, nuit. Alors on pourrait peut-être faire revenir les falotiers, ces gars qui au XVIIe siècle allumaient et éteignaient les réverbères à la chandelle, puis à l'huile et au gaz. Ils feraient aussi agents de sécu en même temps. Sauf que beaucoup de communes sont passées au LED, plus économiques. Alors, pourquoi ne pas créer une appli de téléphone reliée au réverbère permettant d'allumer quand on arrive? On pourrait même choisir sa couleur, son ambiance, une vraie boîte de nuit extérieure qui malheureusement ne serait pas de bon augure pour les pauvres animaux et insectes environnants. Non mieux encore, j'ai entendu l'autre jour des essais d'éclairage grâce à des plantes bioluminescentes, comme dans Avatar quoi. Ça franchement j'ai trop envie de voir. Bon, en vrai, je pense qu'on est proche de trouver des solutions adaptées pour l'éclairage public, et c'est tant mieux. Mais moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est les gens qui suréclairent chez eux avec un plafonnier blanc ultra puissant, voire un néon. Je me dis, mais c'est quoi votre problème légal là? Vous vous lancez en médecine et vous allez m'opérer sur la table du salon ou quoi? Non mais c'est vrai, c'est quoi l'intérêt de joindre les gens moches en les aveuglant? Alors, qu'on se suréclaire quand on est seul chez soi, je m'en fous. Mais quand on invite des gens, on fait un effort. Enfin, je sais pas, moi, il m'arrive par exemple de me balader à poil chez moi, mais si je propose un apéro, ben, j'enfile un slip, quoi. Bon, ben voilà, c'est pareil. On invite, ben, on met une lumière agréable, plus tamisée. Au pire du pire, quand les gens demandent ce qu'il faut amener à la soirée, ben, dites-leur une lampe d'appoint. Et puis, ça règle le problème. Bon, allez, j'arrête de m'agacer. En tout cas, lumière trop éteinte ou lumière trop allumée, le sujet a l'air d'être lancé. Mais si on veut faire en sorte de protéger tout le monde, humains, faune et flore, assurons-nous très bientôt de voter pour des personnes qui ne sont pas là juste pour la prendre, la lumière.
Merci beaucoup Grégory. Il est 19h39, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Focus sur la vie nocturne en Île-de-France avec l'association Consentis. Et c'est Vladimir et notre invité Clémentine Roule. Bonsoir Vladimir.
Bonsoir Francesca, bonsoir tout le monde et bonsoir à vous Clémentine Roule. Vous êtes juriste et coordinatrice des actions de prévention contre les violences sexistes et sexuelles dans les lieux festifs à l'association Consentis. Et vous êtes avec nous par téléphone. Est-ce que vous nous entendez bien ?
Je vous entends bien, merci.
C'est parfait. Alors du coup, avant de passer à notre entretien, j'aimerais vous faire écouter d'abord un extrait d'un reportage qui a été réalisé à l'occasion d'un débat organisé le 25 février avec quatre candidats au municipal de Paris autour de la fête et de la vie nocturne. Un reportage de Robin qu'on écoute tout de suite et on en discute juste après.
Le syndicat Culture Nuit et le réseau des musiques actuelles de Paris avaient organisé ce jeudi 19 février à la Rotonde Stalingrad un moment d'échange réunissant commerçants, élus et journalistes. Ce moment accueillait Pierre-Yves Bournazel de 100% Paris d'Horizon, Sophia Chikirou du Nouveau Paris Populaire de la France Insoumise, Sylvain Maillard, représentant de Rachida Dati pour Changer Paris des Républicains et Emmanuel Grégoire de Paris est à vous du Parti Socialiste. Alors forcément, les promesses sont allées bon train ce soir-là et certains candidats en ont profité pour nous rappeler les choses importantes de la vie, ces choses qu'on aurait peut-être tendance à oublier, comme Madame Sophia Chikirou.
On dort la nuit, on se repose, on se reconstitue la nuit. Vous êtes tous d'accord avec ça? On est très nombreux à avoir besoin de faire une bonne nuit pour pouvoir se maintenir en bonne santé et en vie.
Ou encore Sylvain Maillard.
La drogue est interdite en France.
Bon allez, trêve de plaisanterie, les élus nous ont parlé de démarchandisation de la fête, de police des transports, d'un budget de la culture multiplié par 4, ou encore d'un développement accru des caméras de surveillance. Ce qui est sûr, c'est que chacun des candidats a sa vision des choses. Régulation, répression, orientation ou préservation, qui a dit quoi et quel est l'avenir pour la vie nocturne parisienne? Pour Bournazel, la nuit doit être un espace de liberté et doit pouvoir profiter à tous les noctambules.
On a besoin de la nuit parce que c'est aussi la fête, c'est aussi des rencontres et la ville, c'est la vie. Il faut l'organiser pour que chacun puisse faire la fête, se cultiver, s'amuser, travailler. Et en même temps permettre à celles et ceux qui veulent dormir la nuit de le faire.
Sur la sécurité, le candidat défend des contrôles réguliers pour garantir le respect des normes dans les clubs et ne pèse pas ses mots lorsqu'il s'agit de violences et de harcèlement sexiste et sexuel. Le candidat d'Horizon propose de placer 500 agents par soir sur l'ensemble du réseau du métro parisien.
Aujourd'hui, on n'a pas de police 24 heures sur 24, municipale, ni 7 jours sur 7. Il y a pas de... Moi, je veux un numéro dédié 75-17. Je veux une police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je veux qu'elle assume une mission de prévention, un lien avec les associations, avec les gardiens d'immeubles, avec les commerçants, avec les acteurs du monde de la nuit, pour avoir le maximum d'informations, pour prévenir, pour essayer d'organiser les choses, de les anticiper. Ça, c'est sa première mission. Et puis, quand il y a des incivilités ou de la petite délinquance, elle doit sanctionner. Mais le fait d'être présente au bon endroit, c'est dissuasif et ça permet d'être réactive. Cette police peut être réactive quand il y a des problèmes.
En parlant des transports, la droite et la gauche se rejoignent. Le candidat d'Horizon voudrait des métros ouverts 24 heures sur 24 tous les week-ends, en commençant par les lignes automatisées, quand Emmanuel Grégoire, lui, voit plus loin et dit, je cite, « ne pas vouloir renoncer à l'ambition » et voudrait des métros 24-24 sur l'ensemble du réseau et toute la semaine. Du côté LFI, aussi, on dit vouloir pallier à l'accès des transports, mais le cœur de la campagne se porte sur une démarchandisation de la fête. Pour notre élu d'extrême gauche, la fête doit rester accessible et ne doit pas se concentrer sur le profit. Voici d'ailleurs sa réponse lorsqu'on lui demande comment faire pour limiter l'arrivée des acteurs privés dans le tissu local parisien.
Faut peut-être arrêter de leur ouvrir la porte aussi à un moment donné. Hein.
Sur le volet justement du budget alloué à la culture, qui pour l'instant représente 2,4% du budget total, les opinions se divisent entre les camps. Du côté LFI, on souhaite le porter à seulement 3%, alors que du côté Dati, un audit serait le bienvenu avant toute augmentation. Et de son côté, le candidat socialiste n'a pas froid aux yeux.
C'est de 10% le budget de la culture et en investissement, évidemment, nous poursuivrons les efforts en la matière. Donc ça veut dire en fonctionnement une vingtaine de millions d'euros supplémentaires par an.
Alors, de cette soirée et de cet échange entre candidats, on note sans surprise une droite répressive, axée davantage sur la sécurité des citoyens, notamment avec le déploiement de 6000 agents municipaux formés pour Pierre Bournazel, et une droite, deux droites pour Sylvain Maillard.
Moi, je veux une société où on travaille.
Oui, oui, allez, merci Sylvain pour votre aide. Ah, peut-être une dernière chose pour la fin.
La drogue est interdite en France.
D'accord, et eh ben merci Monsieur Maillard. Et du côté de la gauche, alors, ça s'est plutôt axé sur l'orientation, sur le soutien, sur la préservation parisienne et sur l'ouverture. Une ouverture qui compte des lieux de fête en autogestion pour la candidate LFI et un soutien des lieux sans condition pour Emmanuel Grégoire.
Et je le dis en particulier sur un sujet qui me préoccupe beaucoup en ce moment, qui sont les lieux queer et en particulier les lieux pour les lesbiennes qui sont soumises à une pression financière extrêmement forte et que j'entends soutenir avec beaucoup de volontarisme dès lors que, enfin, quand j'arriverai à réaliser un temps d'échange spécifique sur ce sujet.
Alors, ce qui est sûr et ce qu'on retiendra de l'intervention de ces quatre élus, c'est que tous s'accordent sur le fait que Paris doit rester la ville de la liberté, que la nuit est un bien commun et que le rayonnement parisien se fait notamment par la fête et par la vie nocturne.
C'était un reportage du coup de Robin. Et donc du coup, on est toujours avec Clémentine Roule, juriste et coordinatrice des actions de prévention chez l'association Consentis. Rebonsoir. En première question, est-ce que vous pouvez décrire cette association Consentis et les actions que vous menez au quotidien tous les jours ?
Oui, bien sûr. Du coup, l'association Consentis, c'est une association qui a été créée en 2018 suite au mouvement MeToo de 2017. Et qui s'est vraiment focalisée sur la prévention et la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et discriminatoires dans les milieux festifs et dans le milieu culturel de manière plus générale. Et aujourd'hui, notre association, elle travaille essentiellement auprès des acteurs et actrices de la nuit, partout en France, mais c'est une association qui est quand même née à Paris. Donc aujourd'hui, on a plus de 30% de nos actions qui se déroulent à Paris, et on accompagne en fait les acteurs, actrices du secteur de la fête qui organisent, que ce soit bénévoles, salariés, que ce soit des lieux qui sont implantés depuis des années sur Paris ou tout récent. Et notre objectif, c'est vraiment d'accompagner ces acteurs-là dans la mise en place de dispositifs de prévention contre les violences sexuelles et de faire en sorte que les nuits parisiennes et ailleurs soient plus belles.
Et c'est une très belle initiative. Vous indiquez sur votre site donc des chiffres alarmants. 80% des femmes et personnes non binaires ont subi des violences sexuelles en milieu festif. 10% des personnes ont déjà été violées en milieu festif. Et 25% des personnes ont subi au moins une violence LGBTQIA-phobe en milieu festif. Donc c'est une situation qui est très alarmante. Est-ce que vous sentez du coup une réelle demande, parfois croissante, des différents collectifs, des associations, pour être formés par votre association ?
Oui, bien sûr, c'est des demandes qu'on a de plus en plus. Et en fait, au fur et à mesure, les établissements se rendent compte que mettre en place des dispositifs de prévention, ça devient quelque chose d'indispensable, autant pour eux que pour les publics qui sont vraiment en demande en fait, de se sentir plus en sécurité dans ces espaces-là, d'avoir des choses pour pouvoir se faire accueillir si jamais on a été victime de violences, de voir que les lieux sont engagés contre ces violences-là. Et donc, aujourd'hui, notre calendrier d'accompagnement et de formation est complet, mais on travaille toujours à pouvoir accueillir et accompagner le plus de lieux possible. Et on sent vraiment qu'il y a une volonté des lieux de s'outiller, en fait, justement, sur la gestion de ces violences-là, de s'autonomiser et de pouvoir accueillir au mieux et de manière la plus accessible possible tous les publics.
Alors justement, on parle des lieux, des différents collectifs qui existent, des lieux de vie nocturne. Pour rappeler un peu la vie nocturne, c'est tout ce qui se passe du coup dans les milieux, on va dire, des grandes capitales. J'avais vu quelque part qu'une capitale qui se voulait capitale phare un peu en Europe ne pouvait plus que se définir par son tourisme la journée, mais aussi par une vie nocturne très riche et très vibrante. Et c'est pour ça qu'il existe notamment depuis 2014 à Paris un conseil de la nuit qui est composé d'institutions, d'associations et d'organisations professionnelles qui est censé se réunir une à deux fois par an pour co-construire des politiques publiques autour de la nuit et autour des activités festives, notamment sur des sujets de lutte contre les discriminations. Est-ce que vous êtes sollicité à votre association Consentis pour en faire partie ?
Oui, 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 bien sûr. Ça fait plusieurs années qu'on intervient auprès de la mairie pour justement parler, soit intervenir pendant le conseil de la nuit, soit juste être présente pour pouvoir répondre à des questions qui toucheraient à nos sujets. Et c'est des événements qui, à chaque fois, sont très importants justement pour rencontrer toutes les personnes qui gravitent autour de la fête, comprendre un petit peu mieux les enjeux de ce qui se passe à Paris et rencontrer aussi les autres associations qui travaillent sur le terrain sur d'autres sujets ou sur des sujets similaires.
Parce que souvent on connaît un peu des initiatives prises par des mairies et des collectivités pour essayer de créer des concertations en co-construction avec les habitants, les acteurs locaux, etc. qui parfois ne mènent pas forcément à des décisions qui sont vraiment un réel impact positif. Vous sentez que vous, en tout cas à Paris, il y a un véritable effort qui est fait à ce niveau-là ?
Oui, bien sûr, on est vraiment en lien étroit en fait avec la direction des politiques de la nuit et c'est vraiment des sujets qu'on aborde de manière assez régulière en dehors des conseils de la nuit aussi. C'est-à-dire que on travaille au référencement et un peu à une veille des établissements qui ont été formés sur Paris. On a travaillé aussi avec la mairie sur la formation des équipes qui étaient présentes sur les fan zones des Jeux Olympiques, qui étaient des zones dans lesquelles il y avait aussi de la fête. On travaille sur d'autres dispositifs dans des quartiers bien précis pour justement accompagner des établissements qui pourraient potentiellement accueillir des personnes le soir ou la nuit qui auraient besoin de redirection, d'être accueillies. Donc en fait, on travaille vraiment main dans la main pour mettre en place le plus de choses possible sur la ville et c'est vraiment appréciable de pouvoir faire ce travail-là, en tout cas aujourd'hui.
Donc ça, c'est une initiative de la ville de Paris d'aujourd'hui, mais on a entendu du coup dans le reportage de Robin la ville de Paris de demain, notamment sur les politiques publiques qui sont prônées par les différents candidats sur comment accompagner la vie nocturne. On a vu sans surprise des positionnements plutôt différents entre la droite et la gauche. À droite, on part sur une politique sécuritaire. Chez Horizon, par exemple, Bournazel, lui, il propose de placer 500 agents le soir dans l'ensemble du métro parisien, un agent par rame. Chez Rachida Dati, on a plutôt une augmentation des effectifs de police. Et à gauche, on prône plutôt un soutien financier aux assauts de prévention et Sophia Chikirou qui mise sur des lieux plus inclusifs, autogérés et une démarchandisation de la culture de la fête. On pourrait penser globalement que plus d'agents de sécurité formés serait une solution pour faire baisser les agressions dans le domaine des violences sexistes et sexuelles. Est-ce que c'est une solution d'après vous et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces différentes propositions politiques ?
Alors c'est une solution parmi tout un spectre de solutions qui existent et en fait la formation des agents, que ce soit des agents de sécurité privée qui sont présents directement sur les lieux de fête ou des agents municipaux est primordiale pour pouvoir accueillir au mieux des personnes qui seraient victimes de violences sexuelles, discriminatoires, qu'elles puissent être aussi observées et vues et que les personnes puissent réagir en cas de soupçons de violence. Mais en fait, il faut que ça aille de pair avec des actions de prévention et on n'arrivera jamais à éteindre et faire que les violences s'arrêtent si on se penche seulement sur la formation des agents et pas sur la prévention auprès des publics. Parce qu'il y a en fait une co-responsabilité des publics et de toutes les personnes qui font l'écosystème de la nuit. Et donc ça doit aller de pair avec une institutionnalisation de la prévention et le travail dans les clubs et dans les établissements directement, la mise en place de référents et référentes spécialisées sur les violences sexuelles et discriminatoires dans les lieux, renforcer la prévention des violences dans la communication de manière générale, valoriser la diversité des programmations, documenter, évaluer ces violences-là. En fait, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place et chez Consentis, on croit vraiment au pouvoir de la prévention et au pouvoir de l'accessibilité des lieux qui feront des espaces de fête des lieux plus sécurisants pour tous et toutes et pour ça doit être vraiment une action conjointe de prévention et de sécurisation et de formation en fait de toutes les personnes qui font partie de cet écosystème qui est aussi important à Paris.
Est-ce qu'il pourrait me permettre de vous poser une dernière petite question justement en ouverture avant de terminer notre entretien dans les solutions que vous représentez, est-ce que davantage de représentation des minorités dans les collectifs, dans les prises de décision, dans les programmations artistiques et culturelles pourrait être une solution justement de fond pour réussir à faire baisser ces violences là?
Oui, bien sûr, on s'est rendu compte qu'en fait une programmation qui était très très homogène, avec tout le temps les mêmes personnes représentées, c'est-à-dire beaucoup d'hommes blancs, cisgenres, souvent hétéros, en fait, pouvait aussi amener un public qui lui ressemble, et qu'en fait, amener de la diversité dans les programmations, dans les personnes qui créent la fête, ça permet aussi de créer la fête pour les autres communautés qui se retrouveront plus représentées, qui auront envie de sortir faire la fête et qui pourront travailler à des soutiens communautaires en fait sur les violences qui peuvent être vécues par ces différentes personnes. Et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que la fête puisse être accueillante pour tout le monde, et pour qu'elle soit accueillante pour tout le monde, il faut qu'elle soit fabriquée par tout le monde, et c'est ça une des solutions qu'on promeut.
Eh ben, ça sera le mot de la fin et une très belle conclusion. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Du coup, pour, je rappelle, votre association Consentis, qui propose des formations contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la nuit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Clémentine Roule. Bonne soirée.
Merci beaucoup et très bonne soirée. Tout de suite, la chronique.
La matinale de 19h.
La chronique libre, et c'est avec Noémie. Bonsoir Noémie.
Bonsoir Francesca. Alors, j'ai une première question, interrogation. Comment garder le cap lorsque la tempête gronde? C'était une question qui avait été posée par des profs lors d'un petit atelier d'éloquence auquel je participais au lycée. Et à l'époque, j'avais digéré, pondu ça, bon, on va dire un peu en poésie, mais c'est bien resté dans un coin de ma tête. Et ça, pour de l'éloquence, c'en est tristement bien éloquent aujourd'hui. Quelle musique et quelle odeur ont le chaos? Et quand on active le mode survie, où est-ce qu'on va exactement? Je serais bien la dernière des exemples pour vous pondre un tuto de la bonne militante ou de la bonne syndiquée ce soir. Mais il faut dire qu'on est le 3 mars, soit 12 jours tout pile avant d'exercer notre citoyenneté par le vote, comme ça a été dit précédemment. Et en ce moment, c'est vrai que, on va pas se mentir, garder son cap, celui d'une progressiste pour ma part, eh bien c'est un taf d'équilibriste. On nous demande de toujours trouver la balance entre le doute et le radical, entre la pédagogie et le ras-le-cul des propos justes inaudibles. Et actuellement, je crois qu'on se trouve quelque part entre le débat, la nuance et la santé à préserver face à l'intolérance. Entre maintenir ses positions en la jouant fair-play, mais avec toujours plus de peaux de banane semées sur notre route, en nous répétant de fermer notre boîte à camembert. Et encore, c'est assez poli. Ouais, c'est pas simple. Alors, peut-être que pour garder le cap et pas perdre le nord de nos convictions, il faut savoir dans quelle direction on va, et donc il faut savoir où farfouiller dans le passé pour mieux naviguer dans la politique et ses eaux usées. Comme pour beaucoup de femmes comme moi, ça a commencé avec le féministe, donc des petites lectures, des petits conseils de meufs cool sur les réseaux, et le fait vertigineux que toute notre culture masculine n'était qu'une construction, montée de toutes pièces par cette industrie ancrée, patriarcale, tentaculaire et illimitée. Alors du droit à l'IVG invoqué jusqu'au capital culturel valdingué, elles étaient d'abord en solo, ces petites révolutions, puis ça a glissé petit à petit entre amis, puis dans les soirées et dans les petites assemblées. Il a fallu croiser toutes les connaissances internes, des plus universitaires aux plus intimes, pour faire cette petite révolution et garder ce cap. Alors aujourd'hui, le défi, c'est comment vesqui ces espèces de masques panettes dans la vie et dans les lois et dans les discours. Alors à quoi ça aboutit? Par des petits trucs dans les tiroirs. Pour ma part, ça a été un mémoire fini l'année dernière sur les violences sexistes et sexuelles dans le rap français. Beaucoup de portes peuvent s'ouvrir encore aujourd'hui. Également pour ma part, celle de l'antiracisme et la multiplicité des luttes. Donc différentes luttes à la fois intimes, mais qui peuvent devenir collectives. Et je crois qu'il faut regarder le monde comme si on faisait un peu l'état des lieux de nos chambres. On y trouve des chaussettes énervées, des flyers écorchés, des mots justes, des mots raturés. Mais fait étrange, pas un chat dans ma piole. Alors j'aère un peu, histoire de tout laisser infuser, avant de laisser tout le monde entrer, danser, échanger dans mon antifa karaoké. Et si on est flippé d'aller manifester dimanche pour nos droits, peut-être une solution y réside entre le macadam et les menaces de faf, de nazis bien nazes. Ne jamais rester solo, ne jamais se dire qu'on est de trop.
Merci beaucoup Noémie. Et c'est la fin de cette matinale de 19h. C'était Francesca à l'animation. Merci à nos invités. L'équipe de ce soir, c'était Julie à la Réal, Tiana en grande interview, Léo en flash info, Vladimir au Zoom, en chronique actu, Grégory et Noémie en chronique libre. Tout de suite, l'émission Le Lobby, restez branchés. En ce qui nous concerne, on revient demain, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur radiocampus.org. pour écouter tous nos podcasts et la matinale RCP sur Instagram. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée et à demain.